Bonjour, plus de clameurs dans les bars, dans les stades. Les églises restent silencieuses. Depuis hier soir, 11 villes du nord de l'Italie ont fermé les lieux publics par précaution, alors qu'une vingtaine de cas de coronavirus ont été recensés dans la péninsule. Un homme de 78 ans est décédé hier soir. Promise en 2012, annoncée pour fin 2016, la fermeture de la centrale de Fessenheim est devenue une réalité la nuit dernière. Il était temps, estiment les écologistes, qui exhortent le gouvernement à accélérer le démantèlement des centrales nucléaires françaises. Dans ce journal également, Emmanuel Macron au salon de l'agriculture. À 3 semaines du premier tour des municipales, le chef de l'État va tenter aujourd'hui de casser son image de président des villes. Le carnaval de Rio, plus politique et irrévérencieux que jamais. Et puis le 15 de France de rugby en quête d'une 3e victoire dans le tournoi des 6 nations. Vos invités, Eric, dans quelques minutes.
Eh bien, ça commencera à 7h50. Patricia, vous recevrez
Rodolphe Marconi pour un film documentaire qui sort en salle la semaine prochaine. Cyril, agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre, des dettes.
Et puis l'invité à partir de 8h20, Aurélien Taché, député La République En Marche du Val d'Oise. Question ce matin sur la gouvernance Macron.
France Inter.
Plus de 50 000 Italiens ont donc reçu l'ordre de rester chez eux ce samedi.
Oui, ce sont les habitants d'une dizaine de communes situées à 60 km de Milan. Les autorités les invitent fortement à ne pas quitter leur domicile alors que l'épidémie de coronavirus semble prendre de l'ampleur au nord de l'Italie. Pour la seule journée d'hier, 17 personnes infectées ont été recensées en Lombardie et en Vénétie. Un maçon retraité âgé de 78 ans est décédé. Il n'était pas allé en Chine. La question de la transmission du virus se pose donc. Et en attendant d'avoir des réponses scientifiques, les autorités italiennes ont pris des mesures radicales, enfermant donc tous les lieux publics dans cette zone. Bruce de Galzin.
Les stades, les églises, mais aussi les restaurants, les magasins, ce sera ville morte tout autour de Cordogno et ses 15 000 habitants où la plupart des cas sont recensés. Les maires d'une dizaine de petites villes au sud-est de Milan demandent même à leur population de rester chez elles. La quarantaine est en revanche obligatoire pour les personnes qui ont été en contact avec les patients contaminés. Et Giuseppe Conte, le président du Conseil italien, veut rassurer.
Nous étions préparés. La population ne doit pas être inquiète. Comme nous l'avons toujours dit, nous adopterons toujours les mesures les plus sévères et les plus rigoureuses pour un maximum de précautions. Nous sommes en train de circonscrire les zones touchées. Nous prenons des mesures d'isolement pour les personnes qui ont eu un contact même minime avec le virus.
Plus de 250 personnes sont placées à l'isolement pour la seule ville de Cordogno où le premier cas a été détecté. Un homme de 38 ans qui n'a pas voyagé en Chine. Sa femme, plusieurs clients d'un bar de la ville où elle est allée, ainsi que des soignants de l'hôpital sont positifs au premier test du coronavirus. Ce sont les premiers cas de transmission locale du virus en Italie. À Rome, Bruce de Galzin, France Inter.
Sur le territoire chinois, le rythme des contaminations semble marquer le pas avec moins de 400 nouveaux cas hier contre près de 900 la veille. En France, les 28 ressortissants rapatriés hier ont entamé leur période de quarantaine dans un centre de vacances de Branville près d'Oulgat. Ils seront soumis à plusieurs séries de tests. Pour l'heure, il n'y a pas de malades. Le CHU de Caen reste en alerte. Elle commence à avoir du mal à respirer. Elle se meurt lentement. C'est avec ces mots que les salariés CGT de la centrale de Fessenheim ont annoncé le début du long processus d'arrêt de la plus ancienne centrale nucléaire de France. Le réacteur numéro 1 a été débranché cette nuit, sans encombre, mais avec une certaine amertume pour des employés qui considéraient la centrale comme un personnage faisant partie intégrante de leur histoire. Le second réacteur sera déconnecté le 30 juin et la procédure de démantèlement s'étalera ensuite jusqu'en 2040. Fessenheim avait été mise en service en 1978. Sa fermeture constitue pour le gouvernement une première étape dans le changement de stratégie énergétique de la France. Aujourd'hui, 75% de l'électricité est d'origine nucléaire en France. L'objectif est de réduire cette part à 50% d'ici 2035. Pour cela, la fermeture de Fessenheim ne suffira pas, estime Greenpeace, par la voix d'Alix Mazzoni, chargée du nucléaire pour l'organisation écologiste.
Fessenheim va être une exception puisque ce sera la seule centrale à fermer avant 50 ans de fonctionnement, si on en croit le programme proposé par EDF et le gouvernement. Pour les autres, on propose de jouer un jeu dangereux en essayant de les exploiter au maximum. C'est tiré sur la corde et c'est irréaliste. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux dans le nucléaire. Pour l'instant, ce que propose la feuille de route énergétique, c'est de fermer des réacteurs à partir de 2027 et d'accélérer le rythme de fermeture afin de réduire la part du nucléaire à horizon 2035. Mais c'est beaucoup trop tard et surtout, En attendant, on ne fait rien, on ne programme rien, on ne prévoit pas la reconversion des territoires, le reclassement des travailleurs, alors qu'il est très important de prendre conscience que dans les années qui viennent, il va falloir fermer beaucoup de réacteurs nucléaires, qu'on le veuille ou non, ils vieillissent. Il faut absolument anticiper que ces sites ne sont pas éternels. On fait mine de reporter à plus tard des décisions qui doivent être prises maintenant.
Des propos recueillis par Célia Kiyrei.
C'est la principale vitrine de l'agriculture française. C'est aussi un lieu de marathon. Ton politique à l'aube des municipales, le salon de l'agriculture ouvre ses portes. Ce sera à peu près dans moins de 2 heures à Paris, porte de Versailles, au parc des expositions.
Et l'agriculture vous tend les bras, c'est le slogan cette année, alors que le secteur manque cruellement de bras justement. 70 000 postes restent à pourvoir. Des séances de job dating seront donc organisées sur ce salon jusqu'au 1er mars. Un salon qui vise à donner une certaine image de l'agriculture française avec 4000 animaux au pelage lustré, des équipements ultra modernes. Mais pour beaucoup d'agriculteurs, le salon n'est qu'une image d'Épinal, bien loin de la réalité de leur quotidien. Exemple en Mayenne avec ce reportage d'Aurore Richard auprès d'exploitants qui refusent de participer au salon.
Estelle élève une cinquantaine de vaches à signer. Pas question de quitter le Nord Mayenne pour ce salon. Elle n'a jamais mis les pieds là-bas.
On vend une image, des belles bêtes. Après, nous agriculteurs, on sait que on n'est pas à brosser nos vaches tous les jours. Enfin, c'est une vitrine de l'agriculture, mais qui reflète pas forcément nos fermes.
Ni la réalité de l'agribashing et surtout de l'endettement. Pour Gérard, producteur de lait.
Pour un certain nombre d'agriculteurs, c'est d'aller voir des nouveautés en machine pour les bâtiments d'exploitation qui vont leur coûter très cher. Et puis après, ils vont avoir dépensé, investi. Et puis, ils n'arriveront pas à rembourser.
Isabelle n'y va pas, faute de temps, mais elle voit quand même un intérêt à y aller. Montrer qu'une autre agriculture peut permettre de s'en sortir. Elle fait partie du réseau CIVAM, qui mise sur une agriculture durable.
C'est les vaches qui font le travail. C'est elles qui vont pâturer, c'est elles qui vont chercher l'herbe. On a beaucoup moins de fumier à transporter aussi. Donc, on n'a pas besoin de matériel, on n'a pas besoin de gros bâtiments. On a très très peu de charges, donc on y arrive.
Ce n'est pas le cas de tous. Selon la Mutualité Sociale Agricole, en 2017, un agriculteur sur 3 gagne moins de 350 euros par mois.
Aurore Richard, France Bleu Mayenne. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron doit donc arpenter les allées du salon. Ce samedi, le président qui n'est pas parvenu à obtenir pour l'instant un accord sur la politique agricole commune hier à Bruxelles. Les 27 doivent définir leurs priorités pour le budget des années 2021 à 2027. Il est question de réduire de près de 15% les sommes allouées à la PAC. 9 milliards d'euros sont aujourd'hui reversés aux agriculteurs français. D'autres discussions sont prévues au printemps. 5 fois de suite, l'heure de fermeture des bureaux de vote a été repoussée hier soir en Iran. Les électeurs étant appelés à accomplir leurs devoirs civiques et religieux, selon le guide suprême Ali Khamenei. Mais force est de constater ce matin que les élections législatives ont peu mobilisé la population. Hier, la participation ne s'élevait pas à plus de 40% en début de soirée. Le taux officiel sera annoncé dans la journée.
Allez, on finit en musique sur des rythmes endiablés. Elles ont commencé à défiler hier soir.
Les célèbres écoles de samba ont ouvert le bal pour le carnaval. Val de Rio au Brésil, une tradition qui remonte à la fin du 19e siècle. Bien sûr, la danse et la musique sont au cœur de cet événement qui se déroule sur une semaine, mais le carnaval est aussi une caisse de résonance de messages bien plus politiques. Message à l'attention cette année du président d'extrême droite Jair Bolsonaro et des dirigeants religieux, Anne Vignard.
Cette année, les écoles de samba n'ont pas fait dans la demi-mesure. La première, Mangueira, vainqueur du carnaval précédent, s'attaque à la religion et présente un Jésus noir avec du sang indien et un corps de femme. Une offense pour les conservateurs qui ont tenté en vain de l'empêcher. Mais comme le dit Elisabeth, qui va défiler ce week-end, il s'agit simplement d'une question de respect.
Mangueira présentera toute une aile du défilé avec des hommes vêtus en Marie-Madeleine et portant le drapeau gay pour montrer qu'on doit respecter cette partie de la population.
Le samba de Mangueira invite aussi à ne pas croire aux messies qui ont des armes à la main, une référence directe à Jair Bolsonaro. Le président est aussi présent dans le défilé de l'école San Clemente, sur l'avenue des fake news qui ont contribué à son élection. Et le scénariste du défilé assume complètement.
Dans notre chanson, nous avons choisi de montrer les fake news et nous utilisons une allégorie qui est une représentation d'un téléphone mobile qui va partager des mensonges pendant le défilé.
L'impact du carnaval est toujours important car le défilé des écoles est vu dans tout le Brésil et les sambas sont repris et chantés toute l'année. On ignore encore la réaction du président, mais on ne doute pas qu'il n'appréciera guère la satire qui le vise particulièrement cette année. Rio de Janeiro, Invinia France Inter.
Le sport, et c'est dans l'antre du rugby gallois au Millennium Stadium que le 15 de France va tenter cet après-midi d'engranger une troisième victoire dans le tournoi Destination de rugby. Après avoir battu l'Angleterre et l'Italie, les Bleus affrontent donc les Gallois à Cardiff avec l'ambition de continuer sur leur lancée. On verra ça à partir de 17h45.
Et le journal des sports complet, ce sera à 8h10 ce matin. C'était le journal d'Olivia Ferrandi.